VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. Le principal parti de l'opposition congolaise a accusé aujourd'hui les autorités d'entraver sa campagne dans son fief de Mbujimayi, au Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, à moins de 3 semaines des élections prévues le 23 décembre. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, déplore l'arrestation de militants, l'encerclement de son siège dans la nuit de dimanche à lundi par les forces de sécurité et des affiches de campagne arrachée. Au total, 45 militants ont été arrêtés en 48 heures, selon une source à Kinshasa, proche du président et candidat de l'UDPS à la présidentielle, Félix Tshisekedi, élu de la région diamantifère de Mbujimayi. Et donc, à 3 semaines de la présidentielle, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu hier leur premier meeting, et ce, sous la pluie. L'autre opposant, Martin Fayulu, a fait un faux départ. Et le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, a fait campagne dans l'Est Kantaga, minier dans le Sud-Est. Eric Manirakiza.
Le ticket d'opposant Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a lancé hier sa campagne à Kinshasa sous une pluie incessante devant quelques centaines de sympathisants dans le quartier populaire du camp Luka à Kinshasa. Monsieur Tshisekedi a montré du doigt les routes détrempées pour dénoncer le bilan du président sortant Joseph Kabila. C'était très difficile pour nous d'arriver ici. Ils n'ont rien fait. La population du camp Luka est abandonnée. Nous regrettons les conditions de vie des habitants d'ici, a-t-il déclaré. Messieurs Tshisekedi et Kamerhe doivent partir demain à la conquête de l'Est à Goma dans le Nord Kivu. Dans cette campagne, des rendez-vous peuvent toujours être annulés ou reportés à la dernière minute. C'est le cas pour l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu. Il a finalement reporté à mercredi le lancement de sa campagne dans la ville de Beni, également dans le Nord Kivu, où il voulait initialement arriver hier. Monsieur Fayulu veut articuler sa campagne sur la sécurité à Beni, cible des attaques de groupes armés ADF et d'une épidémie d'Ebola. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la majorité, a pour sa part fait campagne toute la semaine dans l'ex-Katanga minier dans le Sud-Est. Il a promis de mettre en prison un agent de l'État qui se livrera à la corruption durant son mandat. Au total, 21 candidats ont été retenus pour la succession du président Kabila au pouvoir depuis janvier 2001.
Et toujours en RDC, des combats ont éclaté, faisant une quinzaine de morts dans l'est du pays entre l'armée et des rebelles regroupés autour d'un ancien officier anti-président Kabila dans la province du Sud Kivu. Les affrontements qui se poursuivaient aujourd'hui même dans le territoire de Fizi mettent aux prises l'armée aux rebelles Yakutumba, du nom de l'ex-officier William Amoré Yakutumba, qui a pris le maquis contre le président Joseph Kabila. Ces miliciens seraient alliés, d'après l'AFP, aux rebelles du Front National de Libération, FNL, du Burundi voisin. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et la ministre française des Armées Florence Parly ont inauguré ce matin le premier salon de l'armement organisé au Caire. L'Égypte, l'une des premières puissances militaires de la région, organise son premier salon de l'armement du 3 au 5 décembre, où une quarantaine d'États et près de 400 entreprises sont représentées selon les autorités. L'émissaire de l'ONU, Euskler, réunit mercredi et jeudi à Genève le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie pour une table ronde initiale avec l'espoir de relancer les négociations sur ce territoire disputé du Sahara occidental au point mort depuis 2012. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre dans le processus politique, souligne la lettre d'invitation adressé en octobre par Euskoleur, décidé à trouver une solution pour le dernier territoire du continent africain en attente d'un statut post-colonial. Et journée mondiale de la lutte contre le sida au Burkina Faso. La maladie est sur le point d'être éradiquée selon les autorités sanitaires qui estiment le taux de prévalence à 0,8% seulement. Un progrès considérable dans la lutte contre la pandémie dans ce pays où ce taux se situait à 7% il y a 20 ans. Le Burkina Faso se fixe désormais comme objectif d'atteindre la prévalence zéro. Et pour cela, l'accent a été mis cette année sur le dépistage. Nous retrouvons à Ouagadougou La correspondance de Lamine Traoré.
Au milieu des années 90, comme dans de nombreux pays africains, le sida battait son plein au Burkina. Le pays était à une séroprévalence qui dépassait les 7% de sa population. Aujourd'hui, la maladie est en voie d'être éliminée au Burkina. Nicolas Meda est le ministre de la Santé.
Aujourd'hui, après une lutte intense, nous sommes arrivés à une prévalence de VIH-Sida à 0,8%. C'est-à-dire que nous avons quasiment éliminé le VIH au Burkina Faso.
Mais cette victoire apparente semble compliquer la suite de la lutte. Le sida ne semble plus préoccuper les populations qui ont, selon les constats, baissé la garde. Selon le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, 94 000 personnes vivent avec le VIH-Sida au Burkina Faso et environ 10 000 ignorent encore leur statut sérologique. Le CNLS-IST appelle donc les populations à connaître leur sérologie. Docteur Didier Bakouan, secrétaire permanent du CNLS-IST.
Il y a au moins 25% des gens dans le monde qui ne connaissent pas leur statut. Et au Burkina, c'est presque la même chose. Le taux est autour de 20% qui ne connaît pas son statut. La connaissance de son statut est la porte d'entrée pour une prise en charge. Quand vous ne connaissez pas votre statut, on ne peut pas vous soigner. Et à l'heure actuelle, nous disons que les traitements sont efficaces, les traitements sont accessibles, les traitements sont gratuits et les traitements permettent de vivre très bien.
AAS, Association Africaine Solidarité, se bat depuis des décennies pour le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Elle suit près de 4000 personnes vivant avec le VIH, dont moins de 3000 sont sous traitement. L'association aide à dépister environ 20 000 personnes par an. Awakone, directrice de AAS.
Une fois qu'on est sous traitement, on réduit les risques de transmission du VIH aux autres. Que d'ici 2020, par exemple, 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida sachent leur sérologie. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça et puis savoir si le VIH plus vit avec le VIH ou pas. Il faut forcément un test.
Une chose est de connaître son statut sérologique, mais une autre chose est d'être accompagné. Pour les personnes déclarées positives, même si les antirétroviraux sont gratuits au Burkina, les associations et organisations de la société civile demandent à l'État de donner les moyens aux communautés d'accompagner les structures de santé pour une meilleure prise en charge. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les Américains rendent hommage à George Herbert Walker Bush, qui a dirigé le pays pendant la fin de la guerre froide, le 41e président américain, décédé vendredi à l'âge de 94 ans, aura droit à des funérailles nationales. Eric Manirakiza.
Ses amis insistaient tout ce week-end sur son bilan de politique étrangère. En 4 ans de mandat, entre janvier 89 et janvier 93, le président Bush a vécu la chute du mur de Berlin en novembre 89 et l'effondrement de l'Union soviétique en 91. Il a négocié l'accord de libre-échange nord-américain signé par son successeur Bill Clinton et de traités de réduction des armes nucléaires. Il a aussi éjecté l'Irak de Saddam Hussein hors du Koweït en 90, tout en refusant d'aller jusqu'à Bagdad pour renverser le dictateur. Le président Donald Trump entend lui rendre tous les honneurs. Il a dépêché le Boeing 747 présidentiel, le baptisé Air Force One, pour chercher le cercueil au Texas et le ramener à Washington. Ce cercueil sera exposé en chapelle ardente sous la coupole du Capitole à partir de ce soir. Une garde d'honneur veillera en permanence pendant un peu plus de 37 heures jour et nuit. Mercredi, journée de deuil national, les funérailles prendront place dans la cathédrale nationale à Washington. L'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney prononcera un éloge funèbre. La liste des dignitaires étrangers n'a pas encore été annoncée, puis ce sera le retour chez lui au Texas après un autre office funéraire à l'église épiscopalienne de Saint-Martin à Houston. Un train amènera le cercueil sur le campus de la bibliothèque présidentielle George Bush. Il sera enterré aux côtés de Barbara, son épouse décédée en avril dernier, et de Robin, leur fille morte d'une leucémie à 3 ans.
Les pays les plus menacés par les catastrophes climatiques vont profiter aujourd'hui du sommet sur le climat pour réclamer plus d'engagement de leurs partenaires du Nord. Les présidents d'États particulièrement vulnérables comme le Honduras et le Bangladesh sont attendus à ce sommet organisé au deuxième jour de la 24e conférence de l'ONU sur le climat. Comme le reste des pays du Sud, ils espèrent que la communauté internationale rehausse rapidement ses ambitions de réduction de gaz à effet de serre, mais ils devraient également rappeler le Nord à sa promesse de porter d'ici 2020 les financements aux politiques climatiques des pays en développement à 100 milliards de dollars par an. Et puis l'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, sera de retour à Sanaa ce lundi. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP Amman une source onusienne. Monsieur Griffiths va arriver cet après-midi dans la capitale contrôlée par les rebelles dans le cadre des efforts de paix. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.